Bonjour Mathieu Garrigou-Lagranger, comme chaque mercredi, nous interrogeons sur le futur et ses différentes technologies. Tous les deux jours, l'humanité produit autant d'informations que ce qu'elle a généré depuis l'aube de la civilisation jusqu'en 2003. Plus de 90% des données disponibles aujourd'hui ont été produites ces deux dernières années et ce volume d'informations numériques double tous les deux ans. C'est dire l'enjeu considérable que constitue le traitement, l'analyse, le stockage et le décryptage de ces mégadonnées, big data en anglais, et les nouveaux horizons qu'elle crée pour l'ensemble de la recherche scientifique en permettant l'accès à une quantité inédite d'informations brutes qui recèlent des trésors de connaissances. Oui, mais des trésors de connaissances difficiles d'accès. Big Data, des chiffres et des chiffres, c'est l'énoncé du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous engouffrer dans ces montagnes de données à la recherche de filons de sens exploitables, nos spéléologues de l'information aujourd'hui sont Mokran Bouzroub, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint scientifique de l'INS2I, c'est l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions. C'est un laboratoire du CNRS et vous êtes également professeur à l'Université de Versailles. Et vous avez co-dirigé avec Rémi Mosry cette somme, Les Big Data à découvert. C'est un ouvrage collectif signé par plus de 150 chercheurs, édité au CNRS Édition. Et nous avons le plaisir également d'accueillir aujourd'hui Eric Mouline. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, médaille d'argent du CNRS 2010. Pardon, vous êtes professeur au Centre de mathématiques appliquées à l'École Polytechnique et vous vous occupez principalement de data science. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission en direct à l'antenne de France Culture et sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. On va commencer simplement sur ces domaines puisqu'on entend beaucoup big data à tout bout de champ depuis quelques années, mais à partir de quand diriez-vous l'un et l'autre que nous sommes passés dans cette ère des mégadonnées, c'est-à-dire que l'humanité a commencé à produire tellement de données qu'il a fallu trouver de nouveaux outils, de nouveaux instruments, de nouvelles technologies pour pouvoir les exploiter. Mokran Bouzroub.
Oui, je crois que c'est très difficile de marquer comme ça une date. En plus, vous venez de le dire à l'instant, dans les deux dernières années, on a produit plus d'informations qu'on en a produit dans le passé. Donc, on peut pas dire que les big data datent des deux dernières années. Il faut juste savoir que dans la communauté des bases de données, par exemple, on parlait des very large databases dans les années 80. Il y a une conférence qui s'appelle comme ça, le VLDB, et qui date des années 80 et qui doit être à sa 40e peut-être année d'édition. Et aujourd'hui, dans les mêmes communautés, on parle d'extremely large databases, donc ça veut dire que le processus continue et on parle de big data, c'est un peu le mot à la mode. On peut parler aussi de masse de données ou de mégadonnées. Je crois que c'est surtout l'accélération qui est caractéristique de ces dernières années. L'idée de grandes masses de données est très ancienne. Les chercheurs se sont attelés aux problématiques associées depuis déjà très très longtemps, mais l'effet d'accélération est très très important ces dernières années et c'est ça qui change la donne probablement.
De quoi parle-t-on finalement? Comment est-ce qu'on peut les définir, ces big data ou ces mégadonnées, Eric Mouline? Est-ce que c'est juste une somme d'informations trop large pour être appréhendée par un groupe de personnes aussi talentueuses soient-elles?
Je crois que je compléterai un petit peu d'abord ce que vient de dire Mokran. C'est effectivement la première communauté qui s'est emparée des grandes données et qui a réellement développé une science autour de ces grandes données, c'est les astrophysiciens. Et je crois que si on veut marquer
le
point de départ, c'est vraiment le Sloan Digital Sky Survey, donc début des années 90. Alors aujourd'hui, les chiffres du Sloan qui semblaient à l'époque Ils avaient comme projet de stocker un pétaflop. Bon, aujourd'hui, un pétaflop, c'est plus personne à personne. Pétabyte, qui aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourrait faire pratiquement avec à l'intérieur d'un laboratoire.
Ça semblait... Pétabyte, c'est 10 puissance 15.
C'est ça. Donc, ça semble aujourd'hui très dépassé, mais c'est à travers, disons, le Sloan, le Sky Server. Que le modèle en fait de ce que va devenir les grandes données du 21e siècle sont apparues. Donc il y a d'abord l'idée de mutualiser les données. Ça c'est quelque chose d'original. Si on ne garde pas les données dans son laboratoire, mais les données sont mises à disposition d'une très vaste communauté. Les données sont structurées au sens où c'est plus, disons, une collection de fichiers enregistrés qu'on a sur des disques durs, mais il y a un protocole complexe d'interrogation. Et là, des spécialistes comme Mokran, qui a travaillé beaucoup sur comment on interroge des très très grandes bases de données, ont joué un rôle tout à fait fondamental. Et il y a aussi l'idée que on partage ces données. À la fois à l'intérieur de sa communauté, mais on partage ces données aussi, on crée en fait une communauté d'utilisateurs qui ne sont pas nécessairement des scientifiques dans des laboratoires. Et à cet égard-là, il y a des chiffres qui sont incroyables, c'est le nombre de... Je crois que le Scan Survey, j'ai récupéré le chiffre, c'est 4 millions d'utilisateurs, alors qu'il y a 15 000 astronomes, en gros, professionnels dans le monde, enfin astrophysiciens, qui pourraient être intéressés par ces données. Ils ont quand même... Ils ont eu 4 millions de distinct users, enregistrés qui ont à un moment donné récupéré une photo du ciel.
Voilà. C'est ça, il faut peut-être redire en deux mots que ce Sloan Digital Sky Survey, c'est un programme d'observation de l'espace qui a commencé à engranger trop de données pour que les astrophysiciens eux-mêmes puissent les analyser seuls.
C'est une collecte en fait de données de façon imagée, avec des instruments extrêmement puissants, enfin des radiotélescopes, donc avec une résolution extrêmement grande, on fait un espèce d'almanach du ciel, donc on regarde tout ce qu'on peut regarder avec un très très grand télescope, avec une forte résolution. Donc ça, c'était pour compléter. Donc il y a quand même un peu un point de départ. Et effectivement, ce qui est assez fondamental, c'est que les physiciens, enfin les astrophysiciens, et ensuite assez rapidement, je dirais, les physiciens des hautes énergies, se sont emparés de cette méthode. Et ils ont été suivis un petit peu plus tard, peut-être 10 ans plus tard, peut-être au début des années 2000, par la biologie. La biologie, alors dans un sens très large. Mais la bioinformatique,
la recherche médicale, la santé au sens le plus large du terme, qui a cumulé, qui a collecté aussi énormément de données, autant sur des analyses moléculaires ou génomiques que sur des analyses ou des fichiers patients. Et on en reparlera dans quelques instants. Je vais me retourner vers vous, Mokran Bouzroub. Quel est le point commun? Parce qu'on parle donc de big data. Eric Moulindi a utilisé cette technique comme s'il y avait une seule technique d'interprétation et de lecture de ces big data. Quel est le point commun entre les données d'un programme de surveillance spatiale, les données de collision dans un grand collisionneur ou dans un synchrotron, ou les données personnelles d'utilisateurs de réseaux sociaux qui sont aussi farmées, en tout cas exploitées par des logiciels de lecture et par des personnes qui travaillent précisément sur ces mégadonnées.
Je crois que d'un point de vue applicatif, évidemment, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais d'un point de vue technique, technologique, ce sont soit des données, comme l'a dit Eric, super structurées, très cadrées dans des tableaux, avec des opérations bien précises pour les manipuler. Ça peut être des grands graphes sur lesquels on fait également des opérations. Ça peut être des textes. C'est la distinction qu'il y a entre les données en général. Et puis après, il y a la nature de production de ces données lorsqu'elles sont statiques, elles sont stockées sur un disque, et lorsqu'elles sont en flux et qu'elles arrivent de façon dynamique et qu'on ne peut pas les stocker de façon pérenne très très longtemps. Donc c'est surtout ces caractéristiques qui permettent de façon un peu générique de distinguer les différentes données.
Leur grand point commun, c'est évidemment leur qualité massive, leur massivité, la quantité immense de ces données qui sont créées, qui sont générées. Pour autant, leur autre point commun, c'est finalement leur extrême diversité. C'est-à-dire que ces mégadonnées, ça peut être aussi bien du texte, des résultats, de la photo, de l'image. Il y a une grande, grande disparité dans les données qui sont recueillies.
Oui, à la fois tout à fait, mais je dirais d'une certaine façon, quand on parle de mégadonnées en science, en fait, on a des données qui sont en général de très grande qualité. Donc il y a d'autres types de problèmes. Donc effectivement, dans la mégadonnée, tel qu'on le conçoit, tel que Google le conçoit ou tel que Facebook le conçoit. Il y a de la grande donnée donc à usage commercial entre guillemets. Il y a une grande disparité de données puisque le big data, je dirais, dans ce domaine-là, c'est plutôt la possibilité de croiser des sources d'informations fortement bruitées. Et très variable.
Donc alors ça, fortement bruité, réexpliquez-nous, qu'est-ce que vous entendez par des sources d'informations bruitées?
Parce que c'est des informations qui sont, ne sont pas produites par un plan d'expérience particulier. Donc c'est plutôt d'informations qui est acquise de façon opportuniste à travers,
un peu chaotique.
On va regarder des logs d'utilisateurs, qu'est-ce que l'utilisateur a fait, donc à partir d'informations, quels sont les parcours d'un utilisateur sur un site web, on va essayer d'en déduire un certain nombre de comportements. Par contre, quand on a de la données produites par de l'instrument scientifique, typiquement on a parlé de Sky Survey, on parlerait de la même de la biologie, des problèmes de génomique. Au contraire, on a de la donnée qui est très propre et très structurée. Donc on est plutôt dans le domaine de la très très grande volumétrie. C'est-à-dire que le big data en e-science, dans le big data dans les sciences, dans les sciences émergentes, dans la nouvelle façon de faire des sciences, c'est de la donnée extrêmement propre et extrêmement structuré.
Ça c'est en sciences dures, ça c'est le LHC, les synchrotrons, les outils astrophysiques.
Ou alors l'autre très grande source de données, enfin qui est moins commune, mais qui est moins disons moins popu, enfin moins connue.
Excusez-moi. C'est
les données qui sont simplement produites par les simulateurs, parce qu'aujourd'hui on fait des simulations de systèmes très complexes. L'exemple type étant effectivement ce qu'on fait en météo ou en
pour la climatologie,
en turbulence, dans lequel on simule des grandes équations de Navier-Stokes, donc dans lesquelles les résultats sont extrêmement compliqués. Et comme les résultats sont très compliqués, eh bien on les stocke et on crée de la donnée par de la simulation. Ça, c'est aussi de la donnée qui est très structurée. Donc là, on est dans le domaine de la très grande volumétrie. C'est-à-dire on est dans des très, très grands volumes, mais de données structurées. Et à l'inverse, quand on va faire de la donnée qui est exploitée, par exemple, par Amazon pour faire de la recommandation ou par Google.
Par des algorithmes de préférence.
Par des algorithmes de recommandation, de préférence. Voilà. Ça va être de la donnée où on va chercher à croiser des sources de données qui ne sont pas des données propres. D'ailleurs, c'est plutôt des données qui sont acquises de façon opportuniste. Et dans lequel les notions de variabilité, donc ce que j'ai appelé de bruit, mais qui va être de variabilité, vont se poser de façon tout à fait différente. Voilà. Donc, il y a vraiment. Alors quand j'appelle de bruit, en fait, on peut parler de dans les grandes données, il y a beaucoup de sources de bruit. Il y a dans la donnée scientifique, le bruit, ça va être typiquement un bruit de capteur. C'est le fait que le capteur est pas parfait, donc on va essayer de lutter contre ce bruit de capteur et
de ne pas le confondre avec les données réelles de l'expérience.
Voilà. Et puis par contre, quand on va être effectivement dans de la donnée produite parce qu'on va observer des réseaux sociaux, bien on va avoir une grande variabilité qui est liée en fait à un aléa qui est intrinsèque à la génération de ces données elles-mêmes.
Il y a un autre point commun, j'essaie de faire un peu ce panorama et puis on va passer à des exemples concrets. Il y a un autre point commun aussi à ces mégadonnées, c'est qu'elles ont induit quelque chose de nouveau, c'est que les laboratoires eux-mêmes, c'est-à-dire les laboratoires qui créent ces données, ne sont plus à même de les lire, de les interpréter, de les comprendre. C'est-à-dire qu'il y a besoin, elles requièrent une approche transdisciplinaire, Mokran Bouzroub.
Oui, la question c'est que ça dépend de quelle science on parle. Quand on parle de, quand ce sont des informaticiens, des physiciens, des mathématiciens qui se parlent, la difficulté est moins grande. La difficulté peut-être est un tout petit peu plus grande lorsqu'il s'agit de parler à des sciences sociales, à des domaines particuliers des sciences sociales, où le discours technique que nous avons peut-être, dont nous abusons souvent, dérange un petit peu et nous ne faisons pas suffisamment peut-être d'efforts pour simplifier ce discours et présenter des concepts relativement compréhensibles par la majorité des gens dans différents domaines des sciences.
Donc ça tombe bien, c'est ce que nous avons essayé de faire au cours important. De cette heure.
Voilà.
Donc un appel, on va par exemple expliquer à nos camarades enseignants en littérature que les mégadonnées peuvent aider à l'analyse textuelle, à se rendre compte, à lire les occurrences d'un même mot, ou pas seulement dans un livre, mais dans un corpus littéraire gigantesque. Vous citez par exemple dans votre livre les occurrences de l'apparition du mot classique ou classicisme au cours de l'histoire de la littérature. Ça sert aussi aux sciences sociales et aux sciences littéraires.
En même temps, c'est un gap culturel important à franchir parce que les spécialistes de littérature ont l'habitude de travailler sur une œuvre pendant un très très long terme. Donc, passer à un autre niveau d'analyse pose quelquefois des difficultés et on ne voit pas toujours l'intérêt de se faire.
Éric Mouline.
Pour compléter, je pense que oui, vous avez insisté sur l'interdisciplinarité. Alors je crois qu'il y a déjà il y a deux disciplines qui sont appelées à travailler réellement ensemble, qui sont d'une côté l'informatique et en particulier les grandes bases de données, et de l'autre côté les statistiques, parce que les mégadonnées, ça induit un changement considérable dans les statistiques aujourd'hui confrontées aux mégadonnées sont obligées d'adopter des nouveaux systèmes de traitement qui soient capables simplement de passer à l'échelle.
De passer à l'échelle supérieure, à l'échelle volumétrique supérieure.
À une volumétrie supérieure. Par exemple, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il est quasiment impossible, les données étant déjà fortement réparties à l'échelle, les données ne sont pas réparties sur un ordinateur, il est absolument impossible de les mettre dans la mémoire dans un ordinateur, donc les données vont être fortement réparties, à l'échelle, soit dans des disques, soit
à l'échelle du cloud.
Donc il va falloir être capable de paralléliser les traitements. Donc là, il y a eu des avancées considérables qui ont été faites, et en particulier des avancées considérables qui ont été faites dans le search, tous les algorithmes de recherche sur le web et les statistiques. Statisticiens travaillent régulièrement sur. On avait l'habitude de travailler une vingtaine d'années sur quelques milliers de lignes, des tableaux très simples qu'on pouvait mettre dans la mémoire, même des ordinateurs d'il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus du tout faire ça. Donc ça veut dire qu'on est obligé de concevoir des algorithmes qui vont. Qu'on va pouvoir répartir à l'échelle du cloud, qui vont travailler de façon asynchrone, qui vont produire des résultats par fusion. Donc
ça transforme profondément.
Et quand on parallélise un algorithme, c'est clair qu'il va falloir être capable de travailler avec le spécialiste de parallélisation ou le spécialiste de base de données pour être capable effectivement de mettre en place un algorithme efficace. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'effectivement, il va falloir le statisticien et l'informaticien va être obligé de travailler avec l'expert métier.
C'est-à-dire de la discipline qui se sert et qui cherche à obtenir des réponses et d'analyse
À la
de
fois
ces données.
Pour être capable de spécifier les questions qu'on est capable de se poser ou en même temps de effectivement d'apporter disons une vision métier ou d'interprétabilité des données.
Voilà. Pour faire une sorte de petite conclusion, pour résumer un peu ce que nous venons de nous dire, il y a une règle fort pratique que vous connaissez bien l'un et l'autre, c'est la règle des 3 V, les principaux défis, le volume, la variété, donc l'hétérogénéité des données recueillies, et la vélocité, c'est-à-dire le flux continu de données à travailler, ces 3 V sur lesquels vous insistez, Mokran Bouzrouz, dans cet ouvrage collectif.
Oui, alors il faut dire que c'est il n'y a pas que ces 3 V, il y a d'autres V qui se rajoutent régulièrement et
la variabilité,
avec la variabilité, la véracité,
la visualisation,
C'est
une histoire
on
de
peut
V.
C'est le Vic comme Vata. Ça, c'est un très bel exercice de pour s'amuser. Mais ce qui est important, c'est que on a souligné jusqu'à présent l'aspect massif, le volume. Il faut aussi bien comprendre que dans certains cas, dans certains domaines d'application, ce volume-là est moins prégnant que la complexité des données, l'hétérogénéité des données.
Vous pensez à quoi, par exemple, à quel domaine ?
Par exemple, dans le domaine, je reviens au domaine des SHS, mais c'est un domaine qui ne manipule pas forcément des grands volumes de données, mais dont les données sont très complexes, par exemple dans l'analyse du langage naturel, dans le cas de l'analyse des œuvres d'art, dont tout à l'heure vous avez cité l'analyse d'un corpus d'œuvres littéraires. Eh bien là, il y a une difficulté inhérente au domaine qui est la complexité des données qu'on manipule. Et c'est souvent chez les spécialistes des sciences humaines et sociales, ils sont pas très impacté par le volume, mais plus par la complexité des données. Et pour eux, pour autant, ça fait que c'est quand même du big data, dans la mesure où il y a une certaine complexité qui se présente à eux et qu'ils ne savent pas traiter.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h20 et nous parlons de mégadonnées, de big data et de ce que le traitement, l'analyse et la prise en compte de ces nouveaux volumes massifs d'informations a pu changer à la pratique d'un certain nombre de disciplines scientifiques, mais pas que scientifiques, comme nous venons de le notifier à l'instant dans cette première partie d'émission. Nous en parlons avec Mokran Bouzroub et Éric Mouline. Alors, l'irruption des big data a fait donc, je dis, apparaître effectivement des événements, des corrélations, des faits qui jusqu'à présent étaient invisibles et noyés dans cette masse de données. C'est notamment le cas dans le secteur de la recherche biomédicale. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous vous êtes rendu à l'Institut Curie où l'emploi des big data a permis des progrès assez spectaculaires dans le domaine de l'oncologie.
En ce qui concerne le cancer du sein particulièrement, j'ai été voir le docteur Alain Livartowski. Il était en pleine discussion avec son équipe sur une découverte assez encourageante sur le cancer du sein justement. Il s'agit de la comédication, c'est-à-dire l'usage d'un traitement combiné à un autre médicament pour pallier les effets secondaires. Et cette découverte n'a été possible que par l'analyse massive des données cliniques. Et on voit bien là tout le changement dans la stratégie de recherche, à l'inverse de la logique traditionnelle.
En fait, le problème, c'est qu'on est parti donc de cette population de patients qu'on connaît traités pour un cancer du sein par chimiothérapie. On sait que quand on fait de la chimiothérapie avant la chirurgie, on obtient une réponse histologique, une réponse complète, c'est-à-dire la disparition complète de la tumeur. Combien? Dans 15%, 20% des cas. Et ce qui est absolument incroyable, c'est ce que vous avez montré en regardant les données, en analysant les données. Dans certains cas, quand les patients prennent certains médicaments, on double le taux de réponse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20% de réponse histologique, donc une disparition complète de la tumeur, on passe à 40%. Et c'est complètement inattendu, non?
C'est complètement inattendu, ce d'autant qu'en fait, les patientes qui prennent des comédications, elles sont souvent plus âgées, elles sont plus obèses, elles sont plus malades que les autres. Donc c'est des patientes plutôt fragiles à qui on aurait tendance à arrêter la chimiothérapie facilement parce qu'elles sont plus à risque de toxicité. Et bien, à contrario, on a trouvé exactement l'inverse de ce qu'on attendait, c'était que c'était des patientes qui répondaient mieux à la chimiothérapie. Et on pense que la comédication qu'elles prenaient peut avoir un rôle direct ou indirect là-dedans.
Enfin, quand on a montré les résultats à nos collègues, là, enfin, ils ne croyaient pas, en fait. Ils étaient complètement étonnés. Donc on est obligé de... Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais il faut qu'on trouve une autre population, il faut que tu te débrouilles pour que tu nous trouves une autre population indépendante, qui n'est pas la même population qu'on a étudiée, pour voir si on retrouve les mêmes résultats.
Ah oui, mais complètement. Moi, ça m'a complètement intrigué. Du coup, j'ai commencé à faire un travail un peu plus informatique là-dessus. Et du coup, j'ai essayé de retrouver ça informatiquement, avec des méthodes un peu plus data mining pour étudier toutes ces comédications et toutes les comédications possibles, parce que du coup on stocke tous ces médicaments et on serait capable avec parce que là c'était un peu à l'intuition, même si vous aviez des données, vous aviez un groupe de patients. Moi, ce que j'avais envie de prouver, c'était de prouver sur l'ensemble des patients qui sont dans le même cas, quoi.
Et l'intérêt fou qu'il y a dans toutes les bases de données que tu as, c'est que c'est des bases de données de vie réelle. Parce que les patientes qui sont dans des essais thérapeutiques, certes, on recueille leurs comédications, etc. Mais en général, c'est plutôt des patientes qui sont pas très malades, qui vont assez bien, parce que on n'inclut pas des malades qui sont insuffisantes rénales, qui sont très polymédiquées. Et donc, avec les bases de données de vie réelle, ça, tu vas avoir suffisamment de puissance pour pouvoir le montrer et regarder est-ce que ça va faire que les patientes vont mieux répondre à la chimio et vont moins rechuter ou plus rechuter que celles qui n'ont pas de comédication.
Sophie, tu es d'accord qu'on a vérifié ça sur notre cohorte de patients, à nous, traités à l'Institut Curie. Or, Thomas, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais est-ce qu'on est capable, avec le système qu'on a mis en place, là, Intercentre, d'interroger de façon simple les autres centres pour voir si on trouve la même chose? Parce que si on trouve la même chose ailleurs, si on multiplie les expériences, enfin, les données dans d'autres sens, si on trouve la même chose, ben, c'est une découverte fondamentale, non?
Ah oui, complètement. Alors, on est capable, oui et non. En fait, on est capable parce qu'on a créé un moteur de recherche qui va pouvoir interroger, poser des questions dans les centres, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, etc. Mais après, quand on veut étudier plus clairement les données, il y a un problème qui se pose, c'est l'anonymisation des données, la sécurité des données. Et du coup, en fait, on peut pas partager des données comme ça entre hôpitaux. Mais du coup, on peut au moins poser la question et comprendre qu'il y a tant de patients à cet endroit-là et puis monter des projets, aller voir les personnes.
C'est quand même impressionnant parce que les big data utilisés dans la recherche biomédicale, c'est quand même assez récent. Et déjà, vous avez fait une découverte qui pourrait bouleverser la manière de faire de la recherche.
Alors, bouleverser, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça donne vraiment des pistes intéressantes où on se dit, il faut vraiment aller regarder parce qu'on a sous les yeux la fin de l'histoire des malades qui ont répondu à la chimio et qui sont guéris, et des malades qui n'ont pas répondu, ou bien qui ont plus tard rechuté. Et donc, il faut utiliser ces données qu'on a pour essayer de comprendre et puis de voir les pistes qui pourraient nous permettre d'augmenter la réponse des futurs malades.
Mais ce n'est pas quelque chose dont on pouvait avoir l'intuition avant sur cette comédication ?
Quand on en parle à n'importe quel médecin, il nous dit « Ah, ça c'est sûr, je le savais ». Oui, tout est que tout le monde le savait peut-être, mais personne n'avait regardé, et c'est les big data et les grosses données de santé en vie réelle qui nous ont permis d'aller regarder.
Donc c'est vrai qu'il y a des questions à laquelle on peut répondre aujourd'hui, on ne pouvait pas répondre hier. Et puis surtout, ça va quand même accélérer énormément le processus de recherche, quoi.
Alors, non seulement ça va accélérer, et puis surtout, il y a quelque chose qui est vraiment important en 2017, c'est que ça va beaucoup diminuer les coûts. Parce que les coûts des essais cliniques aujourd'hui sont absolument faramineux. Et là, les données, on les a. Elles existent. Il faut juste former les gens pour les exploiter. Mais c'est quelque chose qui peut se faire à coût vraiment minime. Donc ça ouvre des perspectives de recherche incroyables.
Et grâce aux dossiers électroniques qu'on a accumulés depuis 15-20 ans, on a accumulé des données, des dossiers médicaux, des images, des comptes rendus d'anapath, les images radiologiques. On a rentré des données dans les ordinateurs. Maintenant, il faut refaire sortir de l'information, il faut faire sortir de la connaissance. Et quand on demande aux patients si vous êtes d'accord pour que, de façon anonyme, on utilise vos données pour faire de la recherche et pour essayer de progresser, tous les patients disent « ben oui, il faut le faire ».
Voilà, pas mal de choses dans ce reportage à l'Institut Curie, dans ce dialogue autour de l'utilisation des big data en oncologie et sur les effets de la comédication. J'aimerais juste une première réaction juste à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Mokran Bouzroub.
Moi, je retiens un certain nombre de mots-clés qui correspondent un peu au périmètre de votre émission. C'est le collecter, accumuler des données, qui est un élément très très important. Analyser, comprendre, expliquer, et dans l'espoir de diminuer les coûts et d'impacter sur le diagnostic et sur la guérison. Et c'est ça que je retiens à partir de ce reportage.
On va reparler de la dimension évidemment économique et des économies d'échelle que peuvent permettre ces mégadonnées. J'aimerais votre réaction, Éric Moulin, également.
Je vais compléter un petit peu. Effectivement, c'est d'un point de vue statistique, il y a quelque chose qui est intéressant dans cet exposé. C'est en fait le lien qu'il y a entre l'exploratoire et le confirmatoire. Donc l'exploratoire, en analysant une masse de données, on fait apparaître en fait une hypothèse. On se dit, tiens, l'association de ces deux molécules, elle a un effet positif et c'est quelque chose dont on ne s'est pas douté. Donc c'est pas une question que l'on se serait posé en disant, tiens, et le confirmatoire, c'est de se dire, aujourd'hui, on va effectivement faire un essai clinique, parce qu'on a vu que la molécule A et la molécule B, quand on les met ensemble, ils ont l'air d'avoir un effet, et par contre, pour en avoir le cœur net, et on a entendu, alors ça pour le statisticien, c'est, oui, mais ces médicaments, on les donne plutôt à des gens qui sont plutôt plus malades que les autres. Bon, ça, effectivement, dans un essai clinique, il va falloir randomiser les faits pour essayer d'éliminer tous les biais systématiques et qui peuvent être inclus là-dedans. Donc voilà, donc il y a tout un dialogue. Je veux dire, la médecine a énormément progressé avec les statistiques. Je veux dire que ça a été des forces conductrices des statistiques, c'est quand même la médecine, dès les années 30, en fait. Donc les médecins ont été très, très en avance sur l'utilisation des statistiques, en particulier dans les essais cliniques. Dans tout un domaine, la biométrie et la biomédecine, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est ancien. Et là, on entend effectivement une nouvelle pratique dans laquelle on va prendre des données collectées de façon opportuniste. Bon, en gros, parce qu'on a du diagnostic, on a du diagnostic de médecins, on a de l'imagerie.
Parce qu'on entend, on a collecté les données médicales, donc ces informations sont là.
En analysant ces données sans partir sur l'hypothèse a priori, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire on va tester une hypothèse, mais on va faire du data mining, du minage de données.
Alors, et on va reparler dans quelques instants pour bien comprendre ce que c'est que ce data mining.
Du coup, on va découvrir une relation.
On va laisser parler la base de données en quelque sorte. On va voir les rapprochements qui se font naturellement face à ce grand volume de données.
On va essayer de se poser la question, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse, on va essayer de confirmer, donc on va formuler une hypothèse de travail, et à partir de cette hypothèse de travail, on va mettre en place, dans le cas de la médecine, on va mettre en place en fait un protocole statistique très clair pour mesurer réellement l'effet. Et donc, il y a toute cette dialectique entre exploratoire, on prend ces données et puis on va essayer de trouver des relations inattendues. Et comment on confirme ? On va formuler une hypothèse et on va la confirmer de façon statistique par des essais cliniques ou quelque chose effectivement d'un petit peu plus rapide que des essais cliniques.
Et sur cette notion, pour rebondir sur ce que disait Mokran Bouzroub tout à l'heure, sur cette notion de coûts et d'enjeux économiques dont on va parler, parce que ces enjeux économiques sont gigantesques. On voit effectivement tout le potentiel à travers cet exemple que peuvent receler ces bases de données gigantesques. gigantesques d'informations qui ont été enregistrées, finalement, sans se douter qu'on pourrait un jour les lire de manière exhaustive. On voit par exemple que un analyste disait que ce que j'ai lu là en préparant cette émission dans une interview, en croisant toutes les données collectées par l'assurance maladie, c'est-à-dire en cassant les silos dans lesquels elles sont stockées aujourd'hui, on pourrait passer d'une médecine curative à une médecine préventive et de fait diminuer les coûts de l'intégralité du système de santé. C'est-à-dire que c'est ça l'objectif, c'est un objectif que les médecins, que tous les gens qui travaillent en recherche biomédicale brandissent depuis très longtemps, le passage à cette médecine préventive. C'est ce que les big data peuvent permettre à moyen, court, long terme. Qu'en pensez-vous, Mokran Bouzroum?
Alors, déjà sur le contenu, est-ce que l'ensemble, le croisement de l'ensemble de ces données permettent de faire ce qui est annoncé? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas expert dans ce domaine. Il faut juste dire aussi que le coût, le croiser des données, ça a un coût aussi. Stocker, traiter des données, ça a un coût. Et tant qu'on met pas en perspective les coûts d'ingénierie des données, les coûts de stockage, les coûts d'exploitation de ces données face aux gains qu'on espère dans un autre domaine, c'est un débat qui n'est pas complet.
Bien sûr.
Donc il faut.
Mais ça permettrait tout de même, en croisant toutes ces données qui ne sont pas que des données épidémiologiques, hein, qui sont des données des données de santé, d'assurance maladie en règle générale. Eric Moulin, si on pouvait arriver à les traiter, justement à faire du data mining un peu libre dans ces données-là, on pourrait effectivement vraiment passer à un autre niveau de médecine. On pourrait faire progresser à ce point-là la pratique médicale.
C'est un domaine sur lequel, l'école polytechnique s'est investie dans le domaine.
Vous enseignez, je le rappelle.
CPM, c'est ça, ouais. Voilà. Nous, l'école s'est investie là-dedans. Ce n'est pas un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Effectivement, il faut voir que dans la santé publique, il y a énormément de sources de données à différentes échelles, à différents grains, quoi. Donc, les données typiquement de la CPAM permettent, de la caisse de
l'assurance maladie.
C'est des données fantastiques pour faire de l'épidémiologie, du minage de données à l'épidémiologie, parce qu'on va avoir des effets sur des grandes populations. Par contre, c'est assez grossier.
Avec du repérage géographique, avec un certain nombre de données connexes.
Oui, ça permet de faire de l'épidémiologie, mais est très fine, et vraisemblablement de découvrir. Ça ne permet pas de faire du diagnostic fin sur une personne, mais ça va permettre de découvrir, en particulier, la comorbidité associée à la prise de plusieurs médicaments.
On se dit qu'on aurait pu, par exemple, bien anticiper des scandales comme celui du Mediator, ou des problèmes liés à certaines prescriptions, à certains médicaments.
Tout à fait.
Manière très fine et de manière très rapide.
Voilà. Analyser l'impact géographique, analyser les différents impacts du milieu ou de l'alimentation.
Alors maintenant, effectivement, l'autre type de source de données, qui est alors là beaucoup plus prometteuse à mon sens, ça pose des problèmes effectivement de privacy, qui sont extrêmement importantes, c'est effectivement
de respect de la vie privée.
Respect de la vie privée.
Privacy,
respect de la vie privée, c'est effectivement d'être capable, si au lieu de garder uniquement l'information de la caisse primaire d'assurance maladie, on gardait les diagnostics, l'imagerie, les prélèvements sanguins, là il y aurait une source de données complètement considérable. Bon, pour le moment
qui serait peut-être même trop considérable pour pouvoir être totalement exploité de manière simple ou de manière
pas simple,
globale,
mais beaucoup plus riche que effectivement simplement des données comptables, parce que les données telles qu'elles sont données dans la CPM, c'est des données purement comptables, on a été voir tel médecin, donc peut-être on sait quel spécialiste on a eu telle prescription, donc on sait on sait pas si les médicaments ont été pris ou pas pris, est-ce que les médicaments ils sont mis dans une armoire ou pas, donc on peut pas faire, on peut pas baser sur ces données du diagnostic. Par contre, aujourd'hui, si on prend des populations importantes, par exemple des populations qui ont été à l'hôpital, et ça c'est devenu quelque chose d'intéressant, à l'hôpital, depuis une quinzaine d'années, on garde les dossiers. On garde à la fois les prescriptions, on garde aussi tous les diagnostics qui ont été faits et on garde l'imagerie. Donc ça, c'est une source de données qui est très très bien structurée, qui est extrêmement riche et sur lequel potentiellement il y a beaucoup de choses à faire. Et bon, sans surprise, Google est là-dessus, quoi. Donc j'imagine qu'il y a des choses à faire. Quoi.
Un mot peut-être, parce que on a évoqué des termes et puis on reparlera évidemment tout à l'heure de ces questions liées à l'éthique, à que faire de ces données personnelles, comment les exploiter. exploiter, comment les anonymiser ou non, et puis combien de temps les conserver. Bref, ça pose tout de même un certain nombre de questions intéressantes, notamment quand on pense à l'exploitation des données individuelles qui sont faites par un certain nombre de sites et notamment les réseaux sociaux. On a entendu des choses. Là, ce dont on parle, c'est du data mining, donc ça veut dire du minage dans une base constituée. Il y a un autre type d'exploitation qui peut être faite des mégadonnées, ce sont les tâches dites prédictives. Est-ce que vous pourriez bien nous distinguer ces deux usages-là, qui sont des usages relativement distincts, mais finalement qui sont pas si loin que ça l'un de l'autre, Mokran Bouzroum?
Pour le data mining, je laisse le côté prédictif à Eric. Mm-hmm. Pour le data mining, ça consiste essentiellement à fouiller dans les bases de données pour rechercher des associations entre les données, découvrir des patterns, faire ressortir des schémas dont l'interprétation est évidemment faite par un expert extérieur, un expert humain. Il y a toute une panoplie d'outils qui ont été développés depuis les années 80 sur l'exploitation des bases de données dans ce domaine-là. Voilà, pour le data mining, c'est pour quelque chose qui...
Et c'est ce dont on a parlé essentiellement depuis qu'on a entendu ce reportage tout à l'heure sur les emplois à l'Institut Curie en oncologie. Quelles sont les tâches prédictives que l'on peut attendre d'un grand volume de données, Eric Mouline?
Qu'est-ce qu'on appelle la reconnaissance prédictive? C'est une façon d'apprendre qui est propre à la machine. Donc quand on veut chercher à apprendre à une machine à reconnaître un chat d'un chien, ce qu'on va lui proposer, c'est qu'on va lui proposer un grand nombre d'images de chat et un grand nombre d'images de chien. On va étiqueter ces données, c'est-à-dire on va dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, et on va donner ces données à un ordinateur, et l'ordinateur va être capable, donc au bout d'un certain temps, d'acquérir ce que c'est que l'implantation d'un chat et d'un chien. Bon, c'est pas comme ça que l'homme apprend. Donc si vous avez eu...
Ça c'est la base du deep learning dont on a beaucoup parlé ici, enfin du machine learning pour être tout à fait précis. Et on en a parlé, on va vous mettre les liens. Le
machine learning d'ailleurs est une tâche qui est... Dans le machine learning il y a trois types de tâches. Il y a une tâche qui est justement une tâche dite prédictive, dans laquelle on va chercher donc à prédire un label ou prédire une quantité, parce qu'on peut prédire... aujourd'hui, il y a une température, demain je peux prédire effectivement quelle température il fera demain, ça c'est prédictif. Donc on a une cible et on cherche à prédire cette cible à partir de variables explicatives. Donc on va chercher à prédire est-ce que c'est un chat, à partir de l'ensemble des pixels de l'image, ou on va chercher à savoir quelle température il fera demain à partir de l'ensemble d'observations. Voilà, c'est une tâche prédictive. Donc c'est pas la façon dont l'homme apprend, mais c'est la façon dont la machine apprend. Et je sais qu'un des grands enjeux d'intelligence artificielle, surtout s'il y a eu Yann LeCun, c'est un de ses chevals de bataille favoris, c'est justement le rêve, disons, de quelqu'un qui fait de l'IA, c'est d'apprendre à la machine à apprendre comme un humain. C'est-à-dire qu'un enfant, il apprend pas sa représentation d'un sémantique de ce que c'est qu'un chat, qu'un chien, c'est pas en lui montrant 50 000 photos de chat et 50 000 photos de chien, quoi. Et en lui disant ça c'est un chat, ça c'est un chien. Voilà.
Donc, je vous enjoins de podcaster l'émission que nous avons eue mercredi dernier avec Yann LeCun et dont on va vous remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. In safety and numbers, waiting for my time. Waiting to come in. No need a patient waiting line. I got a uniform, a crust to keep me warm. So come on, come in. Safety in numbers. We get whatever we please. And when the echo plays, jump into the sound of the one, two, three. In safety in numbers, where there's nothing left to feel. And killing all our time, mouthing every rhyme to the one, two, three. I'm ready to explode, scratching at the seam. Can I hold the weight of all our clashing dreams? Found a brand new friend, holding back her hair. So come on, come in. We'll be right back. Safety Numbers de Yoav à 16h40 sur France Culture. Vous écoutez La Méthode Scientifique et nous parlons des mégadonnées, de leur irruption dans différents champs de la recherche. Est-ce que cette irruption a changé précisément à ces domaines de recherche, à la façon de pratiquer la recherche? On va continuer à en parler pendant encore une petite vingtaine de minutes avec Mokran Bouzroum, qui est directeur adjoint scientifique de l'INS2I et professeur à l'Université de Versailles, ainsi qu'avec Éric Mouline, mathématicien et professeur au Centre de mathématiques appliquées à l'École Polytechnique. Alors, on peut évidemment pas évoquer tous les champs de la recherche, on en a évoqué un certain nombre dans le domaine de l'astrophysique, dans le domaine de la physique des particules. On a parlé également à un grand moment des mégadonnées dans le domaine de la recherche biomédicale et de la santé. Parce que vous abordez beaucoup des endroits, et on a même évoqué la littérature et la recherche en littérature, Mokran Bouzroum, dans ce livre « Les Big Data à découvert », que vous me citiez un ou deux autres exemples où aujourd'hui on se rend compte finalement que les mégadonnées sont devenues quasiment incontournables dans tout, dans un grand nombre de domaines de la recherche expérimentale. On peut penser à la métagénomique aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'analyser tout l'ADN qu'il y a dans une goutte d'eau, dans une goutte de solution. Les mégadonnées ont également transformé le rapport à la phylogénétique, c'est-à-dire à la construction de l'arbre du vivant. Expliquez-nous un peu pourquoi.
Ce sont des algorithmes à la fois de classification et d'apprentissage qui sont appliqués sur des grandes masses de données pour analyser les relations génomiques qu'il y a et établir l'arbre du vivant. Donc ça, c'est de, peut-être que Eric est plus spécialiste que moi sur le côté génomique, mais sur ce domaine-là. Mais les domaines, disons, qui la plupart des domaines scientifiques, de toute façon, font appel soit à l'apprentissage lui-même, soit aussi, ce que je ne voudrais pas qu'on occulte un peu, parce que l'apprentissage, c'est un peu la partie cachée de... La partie immergée de l'iceberg, c'est aussi l'interrogation de très grandes masses de données. C'est-à-dire poser une requête sur Google, par exemple. Mmh. C'est une grande masse de données. Poser des requêtes sur des milliers de bases de données distribuées, telles qu'on l'a évoqué tout à l'heure, pour l'astrophysique, par exemple. Et ces problématiques-là, sont également des problématiques scientifiques qui ne sont peut-être moins au devant de l'actualité, mais qui sont des problématiques très très importantes sur lesquelles une grande communauté donc investit de plus en plus.
Eric Mouline.
Alors pour revenir sur les données biologiques, donc ça, effectivement, c'est comme j'ai dit au tout début de l'émission, c'est la bioinformatique avec la physique des particules et l'astrophysique, c'est un des grands moteurs. C'est une des communautés qui s'est très tôt rendu compte de l'importance d'acquérir des données et de les mutualiser, de les rendre publiques, sous certains protocoles d'accès, bien entendu. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on arrive à séquencer le génome, on arrive à faire des biopuces, donc des mesures d'expression des différents gènes, et d'autre part, on a des observations totalement des traits, typiquement l'apparition d'un cancer tumoral ou non tumoral. Et ce que ne savent pas les médecins, enfin ce que les biologistes ont essayé de comprendre, c'est de comprendre, ça c'est une tâche tout à fait prédictive, alors on parlait de prédiction, c'est en quoi effectivement on peut expliquer un label, donc par exemple l'apparition d'un cancer tumoral, à partir d'une expression génétique, et donc de comprendre, tiens, c'est tel génome, telle expression de gènes, effectivement, ou telle combinaison d'expression de gènes, ou tel réseau d'interaction de gènes qui est dérégulé et qui va donc occasionner l'apparition d'une tumeur ou d'un cancer d'un type particulier. Et donc, derrière, il y a des modélisations. Donc, il y a une interaction entre les données, trouver par ces données les gènes qui sont exprimés et qui semblent causer l'apparition d'un cancer, et en même temps être capable de modéliser, de comprendre pourquoi effectivement c'est de modéliser, de faire arriver sur un modèle.
On disait au début de cette émission que la quantité de données générées est exponentielle, c'est-à-dire que on produit chaque année de plus en plus de données, donc se pose un certain nombre de questions, c'est-à-dire déjà notre capacité à traiter ces volumes de données, la quantité de données produites augmente plus vite que nos capacités de calcul et que la capacité de calcul des ordinateurs ordinateurs, est-ce qu'il va, il va pas y avoir à un moment donné un problème d'engorgement, c'est-à-dire trop de données à traiter, plus de visibilité, plus de machines suffisamment performantes pour pouvoir les analyser de manière fine et donc produire de l'information et du résultat, Mokran Bouzroum?
Bah, je pense que vouloir traiter de toute façon toutes les données disponibles sur un sujet donné, c'est pas toujours raisonnable. Donc la plupart du temps, les gens font des échantillonnages, font des sélections, font des annotations sur certaines données et sélectionnent que les données qui les intéressent. Donc ils travaillent sur un échantillon de données. Ceci étant dit, à côté de ça, il y a aussi des modèles de calcul de plus en plus performants qui sont proposés. Dans le domaine des bases de données relationnelles, il y a des recherches qui continuent sur l'optimisation des requêtes, l'optimisation des accès. En dehors des domaines des bases de données relationnelles, il y a des recherches qui se font sur des modèles de calcul de type MapReduce, des modèles de calcul distribués, où donc on distribue les données et en répliquant les codes sur les différentes machines. Donc la recherche sur le calcul intensif sur les données continue, mais à côté de ça, il faut dimensionner les données et ne pas vouloir forcément traiter tous les réservoirs de données d'un coup. Ça n'a peut-être pas de, sens, d'ailleurs.
Mais Éric Moulin, sur cette question de savoir du lien entre la capacité, l'augmentation de la capacité de calcul, l'augmentation du nombre de données produites, et puis peut-être pour continuer sur cette idée-là, sur une question importante qui est celle de la suppression, de la destruction d'un certain nombre de ces données, qui est une question sensible et fort complexe.
Oui, alors il y a deux choses. D'abord, il y a effectivement l'adaptation des algorithmes. C'est-à-dire, clairement, aujourd'hui, il faut réfléchir algorithmiquement différemment de ce que l'on faisait il y a une vingtaine d'années. Le passage à l'échelle, c'est quelque chose de fondamental. La possibilité de répartir des calculs. Alors, sans parler, effectivement, être capable de faire une factorisation. Souvent, les méthodes qu'on utilise, les problèmes qu'on se pose sont des problèmes relativement simples, je dirais, d'un point de vue mathématique, hein, c'est-à-dire inverser une très très grande matrice. Mais savoir inverser une très très grande matrice dans des dimensions de millions de dimensions, il va savoir répartir ces calculs-là à une très très grande échelle. Donc, c'est le premier point. Donc, il y a une véritable réflexion algorithmique. C'est pas uniquement... On n'attend pas, avec nos vieux algorithmes, on n'attend pas que les machines, la puissance de calcul augmente. En fait, il y a une réflexion algorithmique qui est effectivement d'être capable d'utiliser, que ce soit d'ailleurs en traitement ou en base de données, parce qu'en base de données, c'est le même problème. C'est les bases de données, ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est totalement différent. On a changé totalement de paradigme avec effectivement MapReduce, Hadoop et choses comme ça. Et de point de vue calcul, on change aussi les paradigmes. Quelque chose que je trouve extrêmement important, c'est qu'il faut qu'on ait des algorithmes qui soient... qui puisse donner une réponse au bout, comme je dis, d'une minute, de 10 minutes, d'une heure, de 10 heures et de 1000 heures de calcul. Ça veut dire qu'il faut des algorithmes incrémentaux, c'est-à-dire qu'ils soient capables de fournir une réponse approchée au bout d'un certain temps et qu'on puisse se raffiner.
Vous plaidez, Éric Moulin, pour la reconstruction d'une dialectique moderne entre les modèles mathématiques et les données recueillies. C'est quoi une dialectique moderne
Je pense que plus on va dans les données, pour vous donner une idée, c'est que quand on a regardé, quand Tycho Brahe en fait a collecté les données.
Tycho Brahe qui est le précurseur, l'ancêtre de Galilée,
Kepler a trouvé effectivement les lois en regardant les données de Tycho Brahe, donc il a trouvé les lois de la gravitation. Mais si on avait regardé de plus près, disons, les données, on s'en serait rendu compte qu'il y a des effets qui n'étaient pas du tout pris en compte dans les lois de Kepler, donc des interactions multicorps, voire des effets relativistes. Donc plus on regarde des données, et plus les capteurs que l'on utilise sont des capteurs fins, et plus on va, plus les modèles, si on veut chercher à modéliser les données, à condition qu'il y ait des modèles, il n'y a pas toujours des modèles dans les données, mais là, quand il y a un modèle dans les données, comme en physique, plus on collecte les données, et plus les capteurs sont performants, et plus on a besoin de modèles raffinés. Donc il y a une espèce de course, la dialectique entre modèles et données, c'est de se dire, quand on acquiert de la donnée scientifique, bon, par exemple en biologie, aujourd'hui on acquiert de la donnée de bien meilleure qualité qu'il y a 25 ans, et bien les modèles qu'on va utiliser en biologie, ou les modèles qu'on utilise en physique des particules, ou en astrophysique, ils ont besoin d'être beaucoup plus compliqués, parce que dans la donnée, il y a des structures très fines, et donc on est dans une espèce de course permanente entre le modèle et la donnée.
Alors, Mokran Bouzroum,
je voulais juste rajouter un point sur la destruction des données que vous avez évoquée.
J'allais vous poser la question.
C'est un point très sensible.
La destruction ou la conservation,
c'est un point très sensible, la destruction, parce que, par exemple, si on prend les données qui datent d'il y a 20 ans et qu'on leur applique des algorithmes nouveaux, peut-être que ce qu'on considérait il y a 20 ans comme du bruit qu'il fallait éliminer, qu'il fallait supprimer, aujourd'hui deviendrait de l'information ou de la connaissance. Donc c'est un point très très important.
C'est l'une des raisons qui fait que, par exemple, les échantillons ramenés de la Lune des missions Apollo sont encore examinés aujourd'hui parce que avec
et ça nous ramène donc à cette
problématique. Les instruments modernes, on peut découvrir des choses qu'on ne voyait pas
avant. De préservation des données à long terme. Qu'est-ce qu'on va préserver, quelles données on va garder, quelles données on va détruire, quel coût pour cette préservation, quelle technologie, comment annoter les données de telle sorte que dans 50 ans, dans 100 ans, on puisse les utiliser. Et puis, on peut se poser aussi des questions à beaucoup plus long terme que ça, puisque à l'échelle des centaines à l'échelle de siècles et de millénaires, puisqu'aujourd'hui, notre connaissance, elle est immatérielle. Et les modes de préservation de cette connaissance ne sont pas encore complètement fixés ni bien formalisés.
Sur des échelles de temps très longs.
Sur des échelles de temps très longues.
Renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément à la question du stockage et des nouveaux moyens de stockage. On parle de stockage ADN notamment. Enfin bref, voilà. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter pour conclure justement peut-être sur cette donnée, sur cette notion de stockage et de préservation de l'information. Il n'y a pas un moment donné, Éric Moulin, tout de même, où on va arriver face à un mur. Vu l'augmentation exponentielle des données produites.
C'est vrai que c'est un domaine sur lequel j'ai été amené à travailler. En fait, il s'avère qu'on ne stocke pas tout. Alors, on essaie, par exemple, c'était un problème d'astrophysique, sur des radiotélescopes où on cherche à imager des objets qui viennent extrêmement loin dans le temps. On a gardé, donc on fait des théories de sketch, c'est-à-dire ce qu'on garde, c'est on va détecter, on va chercher à trouver dans la masse de données, dans le flux de données, là c'est un traitement purement temps réel, où il n'y a pas de stockage, on cherche à détecter les événements importants. Les événements importants, c'est un échantillon sur un milliard, et alors soit on décide de dire, ok, tout le reste on le jette, soit on se dit, effectivement, le reste, on va le garder, mais de façon extrêmement compressée. Donc en faisant ce qu'on appelle du sketching, c'est-à-dire on va soit prendre un échantillon sur un million, soit on va faire des projections aléatoires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les domaines d'astrophysique, ou même dans le LHC, et dans le large...
Le grand collisionneur de Hadron à Genève.
C'est clair que tout n'est pas gardé, donc on ne garde que les événements significatifs. Alors après, sur le long terme, je crois qu'il va y avoir un problème très très grave, qui est quel support d'information, mais physique. Sur quel support physique d'information. Donc c'est vrai qu'on a conservé toute la connaissance de l'humanité sur du papier. Aujourd'hui, on ne va pas conserver toute la connaissance de l'humanité sur des disques durs. Les disques durs, ils ont une vie qui est très limitée. Et voilà.
Et bien, pour répondre en partie à ces questions, je vous renvoie encore une fois à l'émission que nous y avions consacrée et dont on vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter qui s'appelle ADN, un brin de mémoire. Mais il est 16h53 déjà, et comme tous les mercredis, nous avons le plaisir de retrouver le futur de la recherche, peut-être les futurs prix Nobel qui seront passés, qui sait, par le micro de la méthode scientifique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Romain Guay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en troisième année de thèse en mathématiques à l'École Normale Supérieure de Paris. Vous avez 4 minutes pour nous présenter vos sujets de recherche. Bienvenue à la recherche. Montre en main, c'est à vous.
Merci pour l'invitation. Du coup, je vais vous parler de ma thèse en cryptographie qui s'intitule « Les chiffrements de masse de données ». Donc d'abord, je vais vous expliquer de manière générale ce que c'est que la cryptographie, puis plus particulièrement ce que je fais pendant ma thèse. Donc la cryptographie, c'est l'histoire de Alice qui va envoyer un message confidentiel à Bob. Et leur seul moyen de communication n'est pas sécure, il n'est pas confidentiel. N'importe qui peut voir tous les messages qui transitent. Du coup, Alice va mettre son message dans un coffre fermé à clé qu'elle va envoyer à Bob, qui lui a la clé. Donc Bob va pouvoir ouvrir ce coffre, récupérer le message. Et n'importe quelle autre personne un petit peu curieuse qui chercherait à avoir de l'information sur ce message ne verrait qu'un coffre opaque fermé. Donc le fait de mettre le message dans... La cryptographie, c'est l'équivalent digital du coffre et de la clé. Et le fait de mettre le message dans un coffre, ça s'appelle le chiffrement. Et l'ouverture du coffre, c'est le déchiffrement. Donc la cryptographie, c'est une technologie qui est déployée, que vous utilisez probablement tous les jours, lorsque vous surfez sur le web ou... lorsque vous utilisez des applications de messagerie sur vos portables. Donc moi, le chiffrement qui m'intéresse est un petit peu plus compliqué que ça, et il permet d'avoir un accès plus fin aux données chiffrées. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, c'est un accès tout ou rien aux données. C'est-à-dire que si on a la clé, on accède, on ouvre le coffre, on a l'intégralité du message, et si on n'a pas la clé, on n'a absolument aucune information. Donc c'est vraiment tout ou rien. Le chiffrement qui m'intéresse, plus particulièrement dans ma thèse, c'est du chiffrement qui permet de donner une information partielle sur le message, mais pas l'intégralité. Plus précisément, c'est un chiffrement qui permet de chiffrer les données pour les garder confidentielles, mais en même temps de faire des calculs sur ces données chiffrées et de récupérer le résultat du calcul. Donc ça a beaucoup d'applications, notamment dans les cas où on a besoin de concentrer plein de données de plein d'utilisateurs, de les centraliser pour pouvoir faire des statistiques dessus. Ça, c'est très utile, mais ça peut poser des problèmes d'anonymat et de vie privée. Donc le chiffrement que j'étudie, ça permet de réconcilier les deux. Mm-hmm. Pensez aux données médicales dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça peut être très utile d'avoir des hôpitaux qui partagent, qui centralisent les données des patients pour pouvoir faire des statistiques pour la recherche médicale, par exemple. Mais on aimerait bien ne pouvoir calculer que des statistiques et pas les données individuelles. Donc justement, le chiffrement que j'étudie, qui s'appelle du chiffrement fonctionnel, permet de faire ça. Ça s'appelle du chiffrement fonctionnel, puisque ça permet de chiffrer les données et de calculer une fonction précise sur ces données, typiquement des statistiques. Mmh. Donc comment on fait pour faire ces chiffrements fonctionnels? Alors, on utilise des problèmes mathématiques qui sont difficiles à résoudre. Plus précisément, des problèmes dont la solution est impossible à trouver efficacement. Mais par contre, si on connaît une solution, on peut efficacement vérifier qu'il s'agit bel et bien d'une solution au problème. Et donc, pour reprendre l'image du coffre et de la clé, la solution du problème mathématique, c'est la clé du coffre. Donc, si on vous donne la clé, vous pouvez facilement ouvrir le coffre. Vous pouvez facilement vérifier qu'il s'agit bien de la solution. Par contre, sans cette clé, il est impossible efficacement d'ouvrir le coffre. Voilà. Donc, ça fait intervenir des mathématiques qui peuvent à première vue sembler abstraites. Donc, c'est des problèmes algébriques ou géométriques, mais qui en fait se révèlent très utiles en pratique, qui résolvent des problèmes vraiment concrets. Pour conclure, là on en est encore, le chiffrement fonctionnel c'est quand même quelque chose qui est assez théorique pour l'instant, on n'en est pas encore à l'utiliser dans les smartphones. Donc ce que je fais moi c'est de la recherche en amont, plutôt théorique, mais il y a beaucoup de potentiel industriel, donc ce qui reste à faire c'est tout le transfert technologique. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Romain. Je tiens à préciser que vous êtes l'un des rares étudiants, l'un des rares doctorants à être venu et à nous avoir fait votre présentation sans aucune note. Donc, je suis toujours assez impressionné. Éric Moulin, peut-être une réaction à ces travaux sur le chiffrement.
C'est tout à fait fondamental. Je crois que la diffusion à grande échelle des données, en particulier des données impliquant des problématiques personnelles, en fait, c'est un des freins. Aujourd'hui, c'est un des freins essentiels. Dans beaucoup de domaines. Alors, pas en e-science, parce que finalement, les supernovas, elles n'ont pas besoin de... C'est des données qui sont de ce côté-là, elles n'ont pas de revendications. Mais par contre, effectivement, dès qu'on va toucher sur des données de santé ou des données impliquant effectivement des données personnelles, le chiffrement, c'est quelque chose de tout à fait fondamental.
Ouais, on a évoqué à peine effectivement les questions éthiques et les questions de données privées, mais on aura évidemment l'occasion de revenir sur ces questions dans d'autres futures émissions consacrées à ces mégadonnées. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Romain Guay, merci Éric Moulin. Merci Mokran Bouzroub.
Merci à vous.
Je rappelle que vous avez co-dirigé ce très très bel ouvrage qui fait vraiment le tour d'un grand nombre de questions sur les big data à découvert, co-dirigé avec Rémi Mosseris, deux éditions du CNRS. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours évidemment vous rendre à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, porte de la Villette, pour l'exposition Terra Data, nos vies à l'ère du numérique, une exposition qui dure jusqu'au 1er janvier 2018. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Hugo Bartholomei, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Azubert à la technique, Victor Buton au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture à 18h20 dans Le Grain à Moudre. La question du jour qu'Hervé Gardet abordera avec ses invités. L'Afrique doit-elle mieux contrôler ses migrants? Et puis dans quelques petites minutes, juste après le rappel des titres, le troisième épisode de la série documentaire. Cette semaine, le salariat n'est pas mort, il bouge encore, par Rémi Doit et Martine Abba. Pour ce qui nous concerne, demain, nous essayerons de comprendre pourquoi et comment, à l'ère de l'information instantanée et de l'hypercommunication, les pseudosciences connaissent un tel retour de flamme. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.